Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Il retombe et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Lundi 1er janvier 2024, à vous toutes et à vous tous, le groupe Fred Zeller présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous l'avez évidemment compris, 1er janvier, jour férié, comme ça a été le cas pour le lundi 25 décembre, cette chronique a été enregistrée à l'avance pour bien évidemment respecter ce jour férié. Vous avez, avec cette première chronique de l'année du groupe Fred Zeller, découvert le nouveau jingle que nous proposons pour annoncer cette chronique sur Radio Libre en Périgord. Chaque lundi, pour, en général, un direct intégral, et pour les rediffusions sur la bande FM de Radio Libre en Périgord 102.3, vous retrouverez donc le jeudi à 16h et le samedi à 17h30 l'annonce de cette chronique avec ce nouveau jingle qui reprend une chanson pour laquelle j'avais fait une chronique expliquant l'histoire particulière de cette chanson, Le Forgeron de la Paix, et la manière dont la guerre qui pourrit tout ce qu'elle touche en avait fait une chanson au monde, une chanson à la gloire de l'armée et à la gloire des guerres, et qui est effectivement quelque chose de complètement contradictoire avec les paroles de cette chanson, avec les paroles originelles, qui sont incontestablement d'un véritable pacifisme. Alors nous reviendrons bien évidemment sur l'histoire de cette chanson à une autre occasion. Pour les libres penseurs, souhaiter une bonne année, c'est avant tout souhaiter une année dans laquelle progresseront les idéaux pour lesquels nous combattons, le développement de la laïcité, la paix. Force est de constater par les jours que nous connaissons, que ce n'est pas un optimisme béat que nous pouvons avoir, tant les bruits de guerre parviennent depuis le Proche-Orient, depuis la Palestine, où un massacre horrible se poursuit maintenant depuis des semaines et des semaines. Gaza sous les bombes, Gaza détruite, mais Gaza qui résiste. Je lisais ces jours-ci une information qui nous intéresse particulièrement à nous, lors de radio, à savoir que à Gaza, l'objet le plus recherché aujourd'hui, ce sont les postes de radio. Parce que la radio, c'est la dernière chose qui passe. C'est finalement le lien avec le reste du monde et le lien avec tous ceux qui, à travers le monde aujourd'hui, organisent des manifestations. C'est tous les jours, des centaines de manifestations à New York, à Stockholm, à Dublin, dans tous les pays, jusqu'en Israël même, où des manifestations ont eu lieu à Tel Aviv. En Israël, on voit de jeunes Israéliens qui refusent de revêtir l'uniforme. C'est la résistance de tous ceux qui opposent aux fauteurs de guerre la paix. La semaine dernière, je vous avais proposé, en lieu et place du choix musical traditionnel, un extrait d'une dizaine de minutes de la bande-son du film « Joyeux Noël », qui relate cet événement réel qui s'est produit sur la ligne de front, où, à Noël 1914, alors que la guerre n'a commencé qu'il y a quelques mois, les soldats français, allemands, canadiens, depuis leurs tranchées respectives, entonnent des chants de Noël, commencent à échanger, puis quelques-uns sortent des tranchées, fraternisent, et tout cela se produit sous le nez des généraux, des officiers qui, après cette journée de fraternisation, vont appliquer une répression terrible auprès des soldats. Mais il y a un lien entre ces soldats qui ont décidé de fraterniser, qui ont décidé d'opposer à ceux qui voulaient les faire entretuer, qui amenaient la jeunesse de leur pays à s'entretuer. Eh bien, c'était la résistance de ceux qui disent non, c'est pas la guerre qui aura le dernier mot. C'est ce combat que nous reprenons aujourd'hui, c'est ce combat qui se traduit partout dans le monde, comme je l'indiquais, dans les centaines de manifestations, de rassemblements qui tous exigent le cessez-le-feu immédiat. Cessez-le-feu immédiat, c'est vraiment le mot d'ordre qui est le plus important aujourd'hui. Alors cet événement de 1914, qui s'est reproduit à plusieurs endroits sur la ligne de front. Ça n'a pas été un cas isolé, il y en a eu plusieurs, ces initiatives de ce type-là. Nous ramène un des combats importants pour la libre pensée, à savoir le combat pour l'obtention d'une loi de réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. On en a souvent parlé dans nos chroniques. C'est un combat qui a failli aboutir, puisqu'une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire de la France insoumise et défendue par Bastien Lachaud, et c'était encore sous la précédente mandature, avait été votée à l'Assemblée nationale et le Sénat, le très réactionnaire Sénat, avait décidé d'interrompre ce processus et donc d'empêcher que cette loi puisse être adoptée. Ça va revenir. Ça va revenir parce que il n'y a pas que les militants de la libre pensée, heureusement, et bien au-delà d'eux, il y a beaucoup de gens qui veulent cette loi de réhabilitation. Alors, est-ce que 2024 sera l'année qui verra cette loi être votée et promulguée? C'est effectivement un souhait que l'on peut formuler tous ensemble. Et à l'opposé, des peuples qui manifestent leur résistance, leur exigence d'un cessez-le-feu immédiat, on voit les dirigeants complices de Netanyahou partout à travers le monde, à commencer par Biden. Biden qui annonce qu'après avoir eu un long entretien avec Netanyahou, il lui a indiqué qu'il ne lui a pas demandé un cessez-le-feu. Voilà les réalités. Et elle est encore pire que cela, puisque les États-Unis sont en train de livrer plus de 10 000 tonnes d'équipements militaires à Israël. 10 000 tonnes pour lesquelles il ne faut pas moins de 244 avions de transport, 20 navires, pour livrer donc plus de 10 000 tonnes d'armement et d'équipements militaires à Israël. Je voudrais maintenant vous faire part d'une contribution qui a été publiée dans Mediapart. En recherchant vos différents documents dans mes dossiers, j'ai retrouvé cette contribution qui a été publiée le 28 octobre 2023, donc deux mois. Et c'est Michel Warshavski. Il dit « Nous avons dépassé les crimes de guerre à Gaza. Pour l'écrivain et journaliste israélien Michel Warshavski, Israël est en train de perpétrer un crime contre l'humanité dans la bande de Gaza. Il dénonce aussi la médiocrité du débat politique en France. » Alors je porte bien évidemment au jugement de l'ensemble de nos auditrices et auditeurs cette contribution donc, qui a été publiée dans les médias. Figure du mouvement pacifiste de la gauche israélienne engagée contre l'occupation et la colonisation, l'écrivain et journaliste Michel Warshavski dénonce dans un entretien à Mediapart le crime contre l'humanité perpétré par l'État hébreu contre les civils gazaouis. Mediapart. En riposte au massacre du Hamas sur son sol, Israël bombarde depuis le 7 octobre de manière indiscriminée la bande de Gaza, tuant et blessant des milliers de civils. Cette nuit de bombardement a été l'une des plus intenses dans l'enclave palestinienne qui a été coupée du monde, Internet et les communications, par l'État hébreu. Comment qualifiez-vous ces violences? Réponse de Michel Warshavski. Je rappelle donc que ça date du 28 octobre. Nous avons dépassé les crimes de guerre. Nous sommes face à un crime contre l'humanité à Gaza. La Cour pénale internationale doit s'en saisir. La population de Gaza paye une nouvelle fois le prix cher sans pour autant que ce carnage, ces milliers de morts gazaouis, ne calme l'opinion publique israélienne qui se sent très menacée. Je suis inquiet. Devant la folie de notre gouvernement d'extrême droite sur lequel les pressions internationales et les discours pour calmer le jeu accrochent très peu, nous sommes face à des jusqu'au boutistes extrémistes qui sont de plus en plus des incapables et des voyous. Netanyahou est leur otage et ça fait peur. J'ai été sonné par les massacres commis par le Hamas. Ce qui m'a aussi sonné, c'est l'absence de l'État, de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. La barbarie et la vengeance aveugle sont-elles de part et d'autre les nouvelles boussoles d'un conflit encalminé depuis des décennies, le monde Mediapart? D'abord, je refuse la symétrie entre les deux parties. Il y a un occupant et un occupé. Même si l'occupé peut utiliser des méthodes intolérables qu'il faut dénoncer, n'oublions jamais. Israël est l'occupant, il a les clés de la solution. Les Palestiniens sont poussés à bout par le désespoir, mais aussi par un sentiment de dignité. Puisqu'on doit crever, creverons-nous en nous battant pour notre terre. J'ai été assez sonné, et je le suis encore aujourd'hui, par les massacres commis par le Hamas, poursuit Michel Ward. Wachowski, pardon. On a tous en nous une grosse lourdeur, quelque chose qui nous pèse. Ma fille et ses copines ont commencé à pleurer le 7 octobre, et nous, les hommes, quelques jours après. Ce qui m'a le plus sonné, c'est bien sûr la violence, même si je peux comprendre d'où elle vient, d'une direction politique, d'une population qui vit à Gaza dans une cocotte minute qui, à un moment, explose. Mais ce qui m'a aussi sonné, c'est l'absence de l'État, de Benjamin Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite. Celle qui a pris les choses en main, c'est la société civile, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, l'accueil des réfugiés et des localités juives qui entourent Gaza se fait par des associations, des groupes de citoyens, mais pas par l'État. À tel point que Netanyahou, pour la première fois, dit, quand la guerre sera finie, il faudra faire un bilan. L'État a été en dessous de tout. Et Mediapart demande, vous dites qu'Israël a les clés de la solution. Quelle est cette solution? Michel Warchavski répond, se retirer des territoires occupés et ne pas provoquer une nouvelle Nakba, catastrophe en arabe, en référence à la fuite ou à l'expulsion de leurs maisons de près de 760 000 Palestiniens et Palestiniennes pendant la première guerre israélo-arabe, qui a coïncidé avec la création de l'État d'Israël. Un ministre du gouvernement israélien a déclaré qu'il fallait finir le boulot de 1948. Cette idée selon laquelle nous aurions gardé beaucoup trop de Palestiniens sur notre territoire, c'est notre gouvernement qui entend créer l'occasion pour nettoyer Israël et en faire un État juif démographiquement, c'est-à-dire un État composé uniquement ou quasi uniquement de juifs. C'est dans la continuité de la loi fondamentale qui a été votée il y a 2 ans. Israël comme peuple-nation, comme État-nation du peuple juif. C'est totalement contraire aux engagements du jeune État d'Israël pour être accepté à l'ONU en 1949. Il s'agit non seulement de ne plus reconnaître les droits nationaux palestiniens, mais aussi de s'en débarrasser le plus vite possible. C'est terrifiant. On ne peut pas mettre 2 millions de personnes dans une cocotte minute à Gaza et ne pas comprendre que ça va exploser tôt ou tard. Et Mediapart pose une nouvelle question. Le conflit israélo-palestinien revient sur le devant de la scène géopolitique de la plus sanglante des manières. Cette violence meurtrière sans précédent est-elle aussi la conséquence du refoulement de la question palestinienne et nombre de cercles diplomatiques en Occident comme dans les pays arabes souhaitent enterrer, notamment à travers les accords d'Abraham? Michel Warchavski répond. Oui, le conflit israélo-palestinien est là, toujours bien présent. Certains ont cru, parmi ceux qui sont au pouvoir en Israël, qu'on pouvait complètement ignorer la question palestinienne et normaliser comme si de rien n'était les relations avec les pays arabes. Ils se sont gravement trompés. Israël veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire d'un côté normaliser, mais de l'autre ne rien changer à sa politique. J'ai vu les images à la télévision des grandes manifestations qui ont lieu dans les pays arabes comme au Maroc. Les régimes arabes sont quand même dépendants d'une certaine opinion publique. Communique clairement avec la souffrance des Palestiniens. Ce qui s'est produit le 7 octobre est une question de nécessité. On se réunit 2 fois par semaine dans un petit café avec des amis, plutôt à gauche qu'à droite, mais pas forcément à l'extrême gauche, des personnes plutôt âgées. Elles ne sont pas dans l'esprit de vengeance. Ce sont des gens de bon sens en général, mais il a fallu cette fois leur expliquer quand même à quel point cette violence était inévitable. Pourquoi cette violence était-elle inévitable? Demande Mediapart. Car c'est le principe de la cocotte minute d'exploser. On ne peut pas mettre 2 millions de personnes dans une cocotte minute à Gaza et ne pas comprendre que ça va exploser tôt ou tard. 2 millions de personnes sont enfermées dans un minuscule territoire et soumises à un blocus depuis plus d'une décennie. Ces 2 millions de personnes ont des droits, à commencer par le droit d'exister, de respirer. Israël les soumet désormais à un siège complet en représailles. Leur coupe l'eau, la nourriture, les médicaments, l'électricité, Internet, les télécommunications. Sa riposte est inacceptable. Que voit en Occident, notamment en France, des débats minables qui ne sont pas à la hauteur de l'extrême gravité du moment. Au lieu d'utiliser tous leurs leviers pour imposer un cessez-le-feu immédiat, de nombreux dirigeants politiques préfèrent prêter allégeance à Israël. Ils sont sous les yeux du monde entier, les complices d'un crime contre l'humanité. Et Mediapart demande, la gauche israélienne peut-elle encore parler de la réalité palestinienne aux Israéliens après le 7 octobre ou est-elle en train de mourir? Réponse de Michel Warchavski. Elle est mal en point depuis un moment et cela ne va pas s'arranger. Ce qui faisait la force de la gauche israélienne, c'est qu'elle était judéo-arabe et le fait d'être judéo-arabe lui donnait aussi une force numérique. Les juifs israéliens étaient minoritaires, mais à partir de 2000, le front judéo-arabe a pris un sale coup, réduisant le poids numérique des manifestations anti-guerre et anti-occupation, nous le payons aujourd'hui. Et la dernière question de Mediapart, c'est avez-vous tout de même encore un peu d'espoir? Mon grand-père, avec le bon sens d'un juif polonais émigré en France sans beaucoup d'éducation, nous disait on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, alors autant parier sur le meilleur et pas sur le pire. C'est mon caractère, je sais qu'il y a des possibilités. Ce n'est qu'une question de volonté politique et de pression internationale. Par ailleurs, il n'est pas exclu que cette séquence meurtrière précipite la chute de Netanyahou, ce qui serait une joie personnelle partagée par de nombreux Israéliens. L'opinion publique israélienne est très volatile. Elle peut être hyper belliciste aujourd'hui et très rapidement sauter sur ce qui semble être une solution. Tel Aviv est tourné entièrement vers l'Europe, vers l'Occident, et puis il y a le Rez Israël. Ce sont un peu vos villes et vos banlieues. Ce sont les populations qui votent à droite en général, contrairement à Tel Aviv qui est beaucoup plus à gauche, au centre gauche. Et cette cassure, à mon avis, va s'accentuer. Ce sont deux Israël. D'ailleurs, on appelle depuis des décennies nos banlieues le second Israël, ces villes pauvres qui se trouvent notamment à la frontière de Gaza. Voilà. Donc, c'était l'interview de Michel Warchavski dans Mediapart, et une interview qui a été donc publiée il y a 2 mois. Donc, 2 mois pendant lesquels les bombardements sur Gaza n'ont pas cessé, se sont même amplifiés, atteignant même leur sommet dans la nuit de Noël. Et ce qu'indique Michel Warchavski dans le positionnement des responsables d'Israël n'a fait que se confirmer. On voit comment les responsables des colons se logent, combien un certain nombre de ces dirigeants d'extrême droite en Israël revendiquent le fait que Gaza soit rasé, que Gaza soit l'objet d'une colonisation totale. Les déclarations sont objets. J'ai eu souvent l'occasion dans cette chronique de parler d'un livre, je trouve tout à fait remarquable, « Judéicité, laïcité et libre pensée ». C'est un ouvrage collectif publié chez Théoline. Et dans cet ouvrage, où différents auteurs font des sortes de notes de lecture d'un certain nombre d'ouvrages autour de cette question, donc judéicité, laïcité, aborde des sujets très différents. Alors, par exemple, l'un des ouvrages qui est analysé, c'est Tsahal, nouvelle histoire de l'armée israélienne, et l'auteur est Pierre Razou. Et donc, voilà la note de lecture au sujet de cet ouvrage. C'est un ouvrage important de 720 pages. Cet ouvrage, très intéressant à bien des égards, illustre bien la formule citée plus haut, « L'État d'Israël, c'est la guerre en permanence ». Cet ouvrage commence par un constat juste. Selon le politologue Alain Diakouf, le militarisme civil amène les Israéliens à examiner toutes les questions à travers le prisme sécuritaire. La guerre devient une réponse normale et légitime, alors que partout ailleurs, c'est l'État qui a une armée, en Israël, c'est l'armée qui a un État. Dans les années 1950, c'est une citation donc de cet ouvrage, hein. Dans les années 1950, qui prend l'auteur de la note de lecture, les dépenses militaires représenteront 20% du PIB. Elles tripleront après l'opération de Suez. Ainsi, les dépenses militaires sont passées de 140 millions de dollars en 1957 à 460 millions en 1966. Aujourd'hui, elles avoisinent 1 milliard de dollars, dont la moitié est payée par les États-Unis. C'est l'État le plus militarisé au Moyen-Orient. 10% de la population sont sous les drapeaux en permanence. L'État d'Israël a mené 9 guerres extérieures ou intérieures depuis sa création en 1947. Il est en guerre de manière permanente. Tsahal est l'acronyme de Tev Tzava Hagana Israël, Force de défense d'Israël. Pour l'auteur, loin de la légende forgée pour les besoins de sa cause, son armée n'est pas invincible. Elle présente même les symptômes d'une défaite en pointillé. Citation donc de l'ouvrage de Pierre Razou, Tsahal, une nouvelle histoire de l'armée israélienne. Elle a perdu la guerre au Liban. De nombreux raids ont tourné à la catastrophe. D'autres actions, considérées comme des succès tactiques, masquent en fait un échec conceptuel. Et pire que tout, reprend l'auteur de la note, donc, ces généraux, naguère auréolés de gloire, se sont révélés des assassins et des tortionnaires. Le crédit moral de l'armée n'est plus au beau fixe. Un signe ne trompe pas. L'entrée en politique se passait par un passage obligé par l'armée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la venue au gouvernement de religieux ultra qui n'ont jamais fait l'armée et la guerre va amplifier ce phénomène. Les conséquences de la première guerre au Liban vont être désastreuses. Généraux et ministres vont être limogés et disparaître de la scène politique pour longtemps. La réprobation est grande. Le Likoud va même connaître une scission à l'extrême droite, ce qui est un record en la matière. Le nouveau ministre de la Défense, pour la première fois, n'est pas un général. Ariel Sharon sera contraint de démissionner et fera une traversée politique du désert de 15 ans suite à son action dans les camps de Sabra et Chatila. Le 25 septembre 1982 aura lieu une manifestation gigantesque à Tel Aviv pour l'arrêt de la guerre au Liban. La deuxième guerre du Liban contre le Hezbollah va tourner aussi au désastre pour Saad. Le premier ministre Ehud Olmert et le ministre de la Défense Armir Peres ne sont pas vraiment représentatifs de la caste militaire. Le d'état-major Dan Aoutz était un véritable fou furieux qui se prenait pour Gengis Khan. L'armée pense alors qu'elle a les mains libres pour se venger de la première guerre du Liban. Les combattants du Hezbollah sont d'une autre trempe que les fédayines qui n'ont quasiment que leur volonté et leur courage comme moyen. Là, les miliciens sont supérieurement armés, avec des munitions qui ne feront jamais défaut. Rusés, ils sont habillés comme les soldats de l'armée libanaise, donc inidentifiables. C'est l'échec assuré, les buts de guerre ne sont jamais atteints, la milice chiite n'est pas décapitée, ses chefs sont toujours là, la troupe aussi, les munitions et les roquettes toujours en nombre. Pire, les soldats israéliens kidnappés ne sont pas libérés. C'est la honte pour Tsahal et la victoire pour le Hezbollah qui s'en sort considérablement renforcé pour avoir défié et tenu contre l'entité sioniste. Plus le pouvoir va se militariser, plus la contestation grandit. 25% des jeunes ont réussi à échapper à l'armée, ce qui ne s'est jamais vu. La guerre du Kippour de 1973, loin d'être la victoire romancée, entraîne de graves conséquences pour Tsahal. Le mythe de l'invincibilité est remis en cause profondément. Celui de la lâcheté des armées arabes en prend aussi un sérieux coup. La cote de popularité de Moshe Dayan s'effondre. Ariel Sharon n'est pas élu aux élections suivantes. Il y a des changements du personnel politique tant à droite qu'à gauche. Le bilan pour l'Égypte est plutôt bon. Elle reprend le contrôle des deux rives du canal de Suez. Les colons israéliens sont expulsés manu militari du Sinaï. L'Égypte sort renforcée sur le plan diplomatique. Le Kippour, fête religieuse par excellence, n'a pas porté chance à la théocratie israélienne. Mais que fait y aller? La société est tellement militarisée que quand un juif ou une juive utilise la loi du retour pour s'installer en Israël, l'obligation numéro un est de faire son service militaire. Le sabre passe avant le goupillon, en quelque sorte. Mais il sera très complexe. Car comme c'est la religion qui dicte principalement le fait de faire son service militaire et non pas que l'on soit citoyen israélien, l'armée est interdite, sauf exception, aux Arabes et aux chrétiens. Il existe d'ailleurs un puissant rabbinat dans l'armée, dépendant directement du chef d'état-major pour faire respecter les préceptes religieux. Aujourd'hui, 10% de l'armée porte la kippa, signe religieux par excellence, ainsi qu'un tiers des officiers supérieurs. Le fondement de Tsahal repose sur une conception mythique et trafiquée, sur les guerriers hébreux, vainqueurs de toutes les situations, selon la Bible, qui est un fondement à la fois religieux et militaire de la foi en l'invisibilité de Tsahal. D'ailleurs, l'auteur n'échappe pas au mythe, puisque le premier chapitre de son ouvrage est la reprise intégrale de toutes les falaises mytho-historico-légendaires que les nouveaux historiens et archéologues israéliens démolissent à chaque découverte, ce qui sape considérablement le mythe porté par Tsahal. D'ailleurs, cette obsession archéologique jouera des tours à Moshe Dayan, qui en était un grand spécialiste. Dans une guerre impériale importante, il disparaîtra ainsi pendant des heures pour aller faire des fouilles. Lors de l'attaque désastreuse de Karmeh, place forte des Palestiniens en Jordanie, le 21 mars 1968, sa passion de l'archéologie l'amène à être blessé et à ne pas pouvoir la commander. Et de plus, c'est un échec retentissant pour Tsahal. L'auteur va même jusqu'à reprendre la formulation surréaliste des 12 tribus d'antan d'Israël, sont que ces 12 tribus sont maintenant des russophones, aujourd'hui 20% de la population. Les colons, les askénazades, les séfarades, les laïcs, les religieux orthodoxes, les militaires, les kibbouzniks, les falachas, 70 000 aujourd'hui, ils ne sont absolument pas intégrés dans la société et subissent le racisme le plus éhonté, malgré les deux opérations Moïse en 1985 et Salomon en 1991. pour les rapatriés d'Éthiopie, les Arabes chrétiens, les Arabes islamistes et les Druzes, les musulmans, tribus d'Israël, c'est vraiment solliciter l'histoire à tort et à travers. Quand la Palestine, le nom vient en référence aux Philistins, on comprend que les sionistes ne l'apprécient guère, commence à devenir une émigration juive, et devant les actions des Arabes qui ne voient pas d'un bon œil qu'on leur vole leurs terres, la question de la défense des enclaves juives va se poser. Une milice clandestine se crée, la Hassomer, le gardien, pour organiser cette défense. Précédemment que, lors de la Première Guerre mondiale, vont se constituer trois bataillons juifs dans l'armée anglaise, les Mulquiers de Sion. Cette première force armée va être décapitée par le sultan ottoman. En 1918, se constitue la Légion juive intégrée dans l'armée britannique. Les trois bataillons vont servir de creuset pour bâtir la Haganah en 1920, la défense, qui va lui succéder. Étant clandestine, elle va constituer dans la foulée la Histadrout, qui va servir de paravent à ses actions armées contre les Arabes et aussi de réservoir de recrutement. Mussolini va appuyer la Hassomer, lui donner du matériel et participera à la formation militaire de ses cadres. C'est Ben Gourion qui en est à la tête militaire et politique. Elle va connaître une scission à droite à la suite de la création par Vladimir Jabotinsky, le Doutchet juif, de l'Irgun Zav Leumi, l'organisation militaire nationale. En 1941, elle constituait une nouvelle force combattante, la PALMA, abréviation de Ougot Mashatz, compagnie de choc. La Haganah est partiellement intégrée dans l'armée britannique pendant la guerre contre l'Afrika Korps de Rommel. C'est dans ces combats que Moshe Dayan perdra un œil et portera son bandeau noir qui deviendra célèbre. En 1943, se constitue encore une force de combat contre la Haganah par des sionistes d'extrême droite, les combattants pour la liberté d'Israël, plus connus sous le nom de son dirigeant, le groupe Stern, spécialiste dans les actes de terrorisme et de représailles. Abraham Stern est abattu par les Britanniques et Isaac Shamir va le remplacer. Les choses vont changer après la guerre. L'Irgun attaque les Britanniques et font sauter l'hôtel King David à Jérusalem pour protester contre les opérations anti-guérilla de la Grande-Bretagne. Bilan, 91 morts, c'est la rupture entre la Haganah et l'Irgun et le groupe Stern. Un nouveau plan de partage est proposé par l'ONU, qui est refusé par les Arabes, qui voient que les Juifs, qui représentent 36% de la population, contre 15 000 Druzes et 1 135 000 Arabes, se voit attribuer 55% du territoire. Les sionistes continuent à s'armer par tous les moyens. Ils vont même jusqu'à acheter des Messerschmitt 109 à la Tchécoslovaquie. Quelle ironie, défendre Israël avec des avions nazis. Le 9 avril 1948, l'Irgun organise le massacre du village arabe de Deir Yassin. 254 personnes, dont la majorité est constituée de femmes et d'enfants. La condamnation internationale est totale. La Ligue arabe déclenche la guerre contre l'État d'Israël. Et comme le note l'auteur, cela ne vise pas à l'éradication du peuple juif, mais à récupérer les territoires volés. Les populations juives seront seulement, entre guillemets, déplacées. Le 28 mai 1948, Ben-Gourion impose la fusion de toutes les forces armées sionistes sous la direction des cordes de la Haganah. Cela ne se fera pas sans grincement de dents et résistance. L'assassinat du comte Bernadotte, représentant de l'ONU par le groupe Stern, provoque la dissolution de l'Irgun et du groupe Stern. Voilà. J'en arrête ici sur cette note de lecture que vous pourrez retrouver donc dans cet ouvrage tout à fait intéressant, Judéicité, laïcité, libre pensée, que vous pourrez évidemment retrouver auprès des militants du groupe Fred Zeller. Je vous donne rendez-vous pour lundi prochain pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Merci, à la semaine prochaine.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée. Vous pourrez réécouter cette chronique sur la bande FM RLP 102.3 jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h ou encore en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord. Nous vous invitons également à retrouver le groupe Fred Zeller sur son site web lpdordogne.fr.